Autre radio, autre culture, bonsoir. Aujourd'hui, nous présentons le livre qui s'appelle « Main dans la main » avec Joaquim Rodrigo de Victoria Camille, « L'histoire de notre vie » et qui est traduit l'espagnol par Christina Delume que nous avons ici présente. Bonsoir Christina.
Bonsoir Marion.
Et avec la participation de Richard Scotto, un amoureux de la musique.
Bonsoir.
Attiré par Joaquim Rodrigo.
Ah oui. Quand j'ai entendu le concerto de l'Aranjuez, je devais avoir 16 ans ou 15 ans et demi. Et ça a été une grande révélation, j'ai acheté le disque, je l'ai toujours d'ailleurs ce disque original, ce 33 tours, et c'est une œuvre que j'écoute très souvent. Bon, je ne connais malheureusement pas beaucoup le reste de son œuvre, mais je vais m'y intéresser dès que possible.
Avec Bernard Vistret, flûtiste.
Oui, et interprète de Joaquim Rodrigo.
Qu'est-ce que cela t'apporte plus que par rapport à d'autres musiciens?
Je préfère jouer cette musique que celle des autres. Bon, un peu Mozart aussi quand même, un peu la mienne, mais surtout celle de Rodrigo. Voilà.
Laurent Cardozo, guitariste.
Eh bien voilà, c'est dit. Joaquim Rodrigo, justement, je suis guitariste, donc tout le monde connaît ses œuvres pour guitare et c'est vraiment un grand moment.
Qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport aux autres?
C'est grand tout de suite, c'est facile, c'est évident, c'est excessivement difficile à jouer, mais c'est en même temps une musique qui parle tout de suite et qui est vraiment merveilleuse.
Et nous allons avoir au téléphone la fille de Joaquim Rodrigo.
Oui, Cecilia Rodrigo, nous allons appeler tout de suite peut-être pour lui poser quelques questions, faire avoir une petite conversation avec elle parce qu'elle est quand même à la source de cette traduction de livre puisque ce livre a été écrit par sa mère, Victoria Camille, qui était une pianiste d'origine judéo-turque et qui donc est venue habiter en France au début du XXe siècle lorsque Joaquim Rodrigo est venu effectivement à l'école normale supérieure suivre des cours de musique ici. Ils se sont rencontrés et leur vie a été absolument incroyablement... On pourrait tirer un film de chaque chapitre de ce livre, en fait. Ce sont des vies comme on n'en fait plus, avec d'énormes difficultés, avec de gros chagrins, avec des joies énormes, et puis cette consécration avec le concerto d'Aranjuez, mais beaucoup d'autres œuvres, puisque Joaquim Rodrigo est un compositeur prolixe, et qu'il y a une multitude d'œuvres pour guitare, d'accord, mais pour tous les instruments, pour voix. Il faut vraiment se pencher sur l'œuvre de ce grand compositeur universel. Et ça a été un plaisir extraordinaire que de traduire ce livre d'un bout à l'autre. En fait, c'est comme si finalement l'auteur me guidait la main et si c'était par l'intermédiaire de ma plume que Victoria Camille s'exprimait en français puisque sa langue maternelle, en fait, au départ, était le français. Voilà. Et que nous nourrissons une amitié profonde avec sa fille, Cecilia Rodrigo, qui s'occupe de l'œuvre de son père, qui est à la tête des éditions Rodrigo, et que nous allons appeler maintenant et peut-être que au fil de la conversation, on dira quelques petites choses que les auditeurs ne savent pas encore sur ce compositeur.
Bien, bonjour, je suis Marion, donc la présentatrice de Autre Radio, Autre Culture. Nous sommes à l'antenne, il y a 4 personnes autour de moi. Donc je vous présente Richard Scotto qui est un amoureux de la musique, Bernard Vistret, là je ne vous le présente plus.
Et... Bonsoir Cécilia.
On est des grands amis.
Oui, merci.
Et Laurent Cardozo qui est guitariste.
Bonsoir.
Très bien, enchanté, bonjour.
Voilà, je laisse notre amie Christine à mener le débat.
Voilà, oh, quelle grande responsabilité. Donc Cécilia, je viens de présenter justement le livre en disant combien ça avait été un plaisir pour moi de traduire ce livre et comment sous la plume de la traduction on sentait le français de ta maman ressurgir très facilement. Donc si tu veux dire un petit mot sur comment tu as ressenti toi la langue peut-être ou la traduction ou le fait que ta maman était si attachée au français, en fait,
oui,
ce genre de choses.
Enfin, oui, bon, tout ce que tu dis, tu as tout à fait raison, mais surtout, je voudrais dire d'abord, ce que j'ai senti, c'était ta sensibilité au moment où tu as traduit ce livre. Ce n'était pas seulement une question de traduire, mais c'était une question de sentir ce que ce texte voulait exprimer. Et je crois que tu l'as senti tout à fait et tu l'as fait sentir également au lecteur d'une façon remarquable. Donc je suis, comme toujours, extrêmement reconnaissante parce que ça a apporté une connaissance additionnelle à la vie de mes parents, surtout à Paris, à l'époque des années 30. Merveilleuse d'ailleurs.
Merci beaucoup, ça me touche beaucoup, je suis très touchée de ce que tu dis. Mais justement, à ce propos, Bernard avait deux ou trois petites choses à te demander aussi.
Oui, Cécilia, bon, c'est un peu le pédagogue qui parle. Quels sont les échos que tu as pu voir dans les pays francophones, par exemple, pour les étudiants en musicologie ou en musique purement, ou en composition, puisque tu vas un peu partout représenter tes parents avec ta fondation, et en même temps, bon, je suis intéressé de savoir ça. Quels sont dans les pays francophones?
Eh bien, justement, ça a apporté aux lecteurs francophones tous ces détails, toute cette vie que les gens ne connaissaient pas de Joaquín Rodrigo et de sa femme à une époque tout à fait méconnue. C'est-à-dire que les gens connaissent très bien quand un compositeur arrive à devenir connu, apprécié, reconnu et tout ça, mais on connaît beaucoup moins bien, surtout les débuts et les années difficiles.
Oui, oui.
Et c'est vrai que ça apportait énormément de lumière parmi les lecteurs français, oui. Et surtout en Belgique, où j'y vais souvent, oui. Et naturellement en France.
Oui, oui.
Et moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu également pour faire connaître cette traduction et ce livre en français, oui, naturellement.
Puis ça doit donner plein d'espérance, par exemple, à tous les compositeurs, effectivement.
Oui, énormément. Et surtout que c'était, on raconte des émotions et des moments, oui, très particuliers, très personnels, qui apportent énormément de richesse à la vie des gens qui font partie de l'histoire maintenant.
Il y a notre ami Richard Scotto, il aussi, je crois qu'il veut te poser une question.
Oui.
Oui, je voulais demander justement un peu ce qu'avait dit Bernard. Est-ce que vous pensez que effectivement la connaissance de ce livre va aider les gens à découvrir un peu plus l'œuvre de votre père, moi personnellement?
Ça devrait. Oui, ça devrait, parce que on raconte des choses très très belles et très importantes dans la vie d'un compositeur. Disons que ses premières années difficiles à Paris, son entourage, la façon dont mes parents ont vécu les années entre guerres, avant la guerre mondiale et pendant la guerre civile espagnole, tout ça que les gens parfois ne connaissent pas et qui font partie donc de la richesse de la musique des artistes par après. Hein. Donc moi je pense que si vous avez lu ça, peut-être que vous avez senti un peu ce que je
en fait j'ai hâte de le lire.
Oui.
J'ai hâte de le lire parce que quand j'ai découvert le concerto pour guitare, je vous disais, j'avais 15 ans et demi, et je vais quand même vous faire un aveu. Chaque fois que j'entends la fin du deuxième mouvement, j'ai pratiquement toujours les larmes aux yeux. Parce que je suis un peu de culture espagnole et ça évoque pour moi des choses très 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 belle et douloureuse sans doute.
Mais peut-être vous ne saviez pas que ça a été écrit à Paris, en
non,
plein
ça,
quartier latin, à la rue Saint-Jacques.
Je ne le savais pas, mais vous savez, quand je l'ai découvert, je n'habitais pas en France non plus.
Oui, vous voyez que
merci
ça,
pour tout.
Donc, il y en a même des Français qui disent que c'est une œuvre française.
Ouais.
Vous savez comment vous êtes les Français, hein. Vous aimez bien vous prendre ce qui est beau et ce qui vaut la peine, n'est-ce pas? Et je suis très fière aussi, d'ailleurs.
Merci. Moi, je suis d'origine espagnole et italienne.
Ah
alors.
Bon?
Oui. Oui, ma grand-mère s'appelle Sanchez de la Santissima Trinidad. Pour tout vous dire. Merci en tout cas, et je vous assure de l'admiration que j'ai pour l'œuvre de votre père.
Mais c'est très aimable, j'apprécie énormément, mais c'est vrai que ce livre devrait être lu même plus, parce que parfois les gens, bon, ils voient un livre comme ça, ils ne savent pas très bien ce que c'est, mais une fois qu'on entre, j'ai autant de témoignages qui me disent, mais vraiment, quelle vie, quel moment difficile, quel beau moment en même temps, ça vaut la peine. Donc.
Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Moi, je me posais la question à propos du concerto d'Aranjuez. J'étais petite et je sais que dans les années 70, il y a un moment où ce concerto était sur toutes les radios, on l'entendait à la télévision, on vendait des disques partout. Pourquoi, justement, dans ces années 70, il a eu un tel impact?
Bon, moi, je crois que, si je dois être sincère, je crois que ça nous a fait un impact parce que ça commençait l'impact. Mais cet impact continue toujours. La chose, c'est qu'on s'est habitué à l'impact et on ne s'en rend même plus compte. Mais moi, je l'entends partout, partout.
Oui, oui, partout. C'est vrai, partout.
Mais on s'est habitué à l'entendre partout et alors ça ne nous étonne plus. Mais c'est une des œuvres les plus connues elle est plus jouée de toute la littérature universelle de tous les temps. Je peux le dire parce que quand je vois moi-même les fois que ceci est joué en classique, disons, l'œuvre telle qu'elle a été écrite dans les concerts symphoniques, mais puis que je vois toutes les versions qui n'arrêtent pas de se jouer dans les discothèques, qui sont enregistrées par les nouveaux groupes, les nouveaux des stars pop, rock, tout, c'est un phénomène. Donc je connais peu d'œuvres classiques qui ont subi un tel impact et une telle popularité.
Oui, c'est vrai. Mais Cécilia, bon, vous le savez, mais je pense qu'il est bon qu'on connaisse toute l'œuvre. Moi, je connais encore que le dixième et pourtant je vais à fond depuis 10 ans parce qu'il y a tellement de chefs-d'œuvre de la même trempe, sauf que celui-là, il a fait mouche et il obstrue un peu peut-être toutes les autres œuvres. Mais faudrait que les gens écoutent et lisent les partitions. Il n'y a que des joyaux là-dedans.
Enfin, oui, bon. J'apprécie énormément ce que vous dites, mais heureusement, il y a beaucoup de gens qui le pensent, et heureusement, toutes les œuvres se jouent de plus en plus, mais le concerto, il est toujours devant.
Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, écoutez.
Alors les autres rattrapent, tout le monde court après, mais c'est là, à l'avance. Donc c'est intéressant, moi je suis ça, parce que je trouve que c'est un phénomène dans l'histoire de la musique. Et en même temps, disons que ça m'énervait un petit peu. Mais maintenant, je me rends compte que toutes les autres avancent énormément.
Oui.
Il y a un moment, il y avait eu une question qui était apparue dans une revue en demandant à quelle époque a été composé le concerto d'Aranjuez. Et la plupart des gens répondaient 18e.
Oui.
Alors, c'est amusant parce que vous parlez du classicisme de votre père. Et pourtant, c'est un compositeur contemporain.
Tout à fait, et très contemporain, puisque ce que parfois les, disons, entre guillemets, critiques, tout à fait critiques, pensent que c'est un compositeur qui n'a pas évolué, qui n'a pas écrit avec l'écriture de son temps. Mais maintenant, parce que toujours il y a un temps qui doit se passer, un temps qui s'écoule, et alors on regarde ça avec une perspective différente, il a été pourtant très, très, très avant-gardiste. Avec son écriture pour guitare extrêmement nouveau, avant-gardiste dans l'écriture de la guitare même. Et il a fait avancer énormément cet instrument qui était un peu relié dans des petites salles, qui n'avait pas encore fait son grande entrée dans les grandes salles de concert symphonique. Donc il a apporté énormément de nouveau à l'histoire de la musique et à la musique contemporaine. Mais ça se sent et ça se voit par après, vous savez. Pendant que le compositeur vit et il fait son chemin, on essaye de le critiquer. Mais puis après, les choses deviennent calmes et tout le monde se rend compte un peu de tout ce qui s'est passé.
Cécilia, je voulais juste poser une question. Est-ce que votre père avait quelqu'un en vue pour ce concerto? Il pensait à un guitariste spécial? Il avait...
Oui, il avait dédié ça à son ami Regino Sainz de la Maza.
D'accord.
Oui, il lui avait promis, parce que ça avait parti un peu, disons, pas comme un pari, mais enfin un peu dans une... Il y a eu, fin de l'année 1938, il y a eu un dîner à San Sebastián, où se sont rencontrés à un dîner. Et alors, bon, des amis et le guitariste, on lui a... Donc, proposer d'écrire ce concerto qui serait tout à fait une nouveauté et que lui pourrait, il le jouerait partout, non? Et alors, au départ, après ce dîner, mon père a tout à fait oublié. Mais puis, par après, quelques mois après, tout d'un coup, l'inspiration est venue subitement et il a écrit le concerto, oui.
Lorsqu'il a composé ce concerto, et je pense aussi à ses autres œuvres, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a interprété particulièrement ses œuvres et il a été enthousiasmé?
Mais moi, je pense que les artistes qui lui ont commandé des œuvres, des concertos, étaient au départ, avant de connaître l'œuvre, tout à fait... des fonds de mon père. Et alors c'est pour ça qu'ils lui ont commandé des œuvres, comme il y avait l'artiste Zabaleta, ou comme le flûtiste James Galway, ou Ida Presti, quand il lui a composé les lettres qui sont dans notre archive. Quand on se dirige au compositeur pour lui demander une œuvre, ils sont tout à fait élogieux de son compositeur. On s'adresse à lui parce qu'on l'aime bien comme compositeur, mais ils ne connaissent pas encore l'œuvre, naturellement.
Oui, je voulais vous demander, excusez-moi, c'est Richard Scotto à nouveau. Oui, vous parliez de James Galloway. Justement, je vois que également Bernard Wistrat a transposé donc, et réécrit un arrangement pour une œuvre pour flûte de votre père. Et j'avoue que
oui,
ça serait...
Très bien, d'ailleurs. Très joli. Et d'ailleurs, ça se joue assez cette œuvre.
J'espère qu'on aura le plaisir de l'entendre souvent. Et...
Oui, oui, ça se joue.
Je vous remercie.
Pas mal.
C'est
oui,
l'aria antigua.
Ah oui, d'accord, très bien.
Donc, on a été nominé aux Victoires de la musique, meilleur enregistrement du disque de l'année en 2000 et quelques, enregistré par Studio Labo d'ailleurs, ce fameux disque aux Victoires de la musique. Et donc, il y avait l'aria pour la première fois.
Bon, il faudrait que je le réécoute alors.
Bah, bien sûr.
Merci.
Oui, alors, Cécilia, justement, toutes les petites anecdotes que tu as racontées. À propos des compositions et à propos de ce que tes parents ont vécu. Enfin, tout ça est remarquablement détaillé et raconté dans le livre. En fait, c'est une suite infinie d'événements les plus intéressants les uns que les autres. Je disais avant qu'on ferait un film par chapitre, pratiquement.
Absolument, absolument. C'est un film.
C'est un film extrêmement attachant, de richesse, de renseignements historiques, de renseignements sur l'œuvre, d'humanité.
Pour les lieux où ça se passe, pour les moments, pour les personnages. Absolument.
Les liens humains, toutes ces personnes dont on a parlé, de justement du guitariste, Saïd Lamat, etc. Tout y est raconté d'une manière très légère d'ailleurs, sans s'apesantir. Et en fait, il faut plusieurs lectures à ce livre. D'abord une lecture générique et puis ensuite s'attacher, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites très légèrement, suggérées. Et en fait, c'est un livre qui continue son chemin une fois qu'on l'a lu.
Tout à fait d'accord, c'est pour ça que je disais au départ l'extrême sensibilité que tu as eue au moment où tu es tombée sur le livre. En fait.
Absolument, c'est très gentil à toi, mais c'est vrai qu'il y a eu une osmose, vraiment. Ce n'est pas une vue de l'esprit entre ce que ta maman disait et ce que j'ai ressenti. En fait, je l'ai senti plus que compris, disons.
Oui, c'est assez intéressant de t'entendre, parce que les mêmes choses disait la personne qui l'a traduit en anglais. Mais cette dame avait connu personnellement mes parents lors d'une visite aux États-Unis, à Houston, et cette dame était tombée tout à fait, disons, comme amoureuse de cette histoire, de cette vie, et il s'était plongé tout comme ça, comme toi, un peu pour faire la traduction en anglais.
C'est ça.
C'est très, très curieux. Très curieux, le même façon de parler.
Oui, c'est très curieux. Il y a des phénomènes là qui sont... Puisqu'en fait, lorsque je l'ai lu, ma première idée a été de te dire, mais ça, c'est traduit en français. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. En fait, c'est quelque chose qui ne me vient jamais à l'esprit quand je lis un livre en espagnol, en fait.
Oui.
Vraiment, ça a été comme un appel, en fait.
Oui, c'est vrai.
Voilà, donc, ce livre, peut-être Marion va peut-être redire comment il s'intitule.
Livre s'appelle « Main dans la main avec Joaquim Rodrigo, l'histoire de notre vie » de Victoria Camille, et qui est traduit l'espagnol par Christina Delume,
voilà,
aux éditions L'Armat de Temps.
Merci Marion, c'est complet, c'est parfait, c'est comme toujours.
Oui, moi j'espère que ça va de nouveau éveiller une fois de plus la curiosité, l'intérêt de gens qui nous écoutent,
bien.
Parce que vraiment ça vaut la peine.
Bien, merci Cécilia. Je crois que tu es un peu pressée parce que tu dois te rendre à un concert.
Comme d'habitude.
Donc je te souhaite un bon concert. J'espère qu'à Madrid, il fait pas trop froid. Ici, il fait très froid.
Il fait froid.
Très froid.
Oui. Il a même neigé un peu ce matin.
Mon Dieu.
Oui.
Au revoir, Cécilia.
Mais Bernard, c'est un plaisir de vous écouter, ainsi que tous vos amis qui vous entourent.
À très bientôt.
Merci. Hein. Au revoir.
Et merci beaucoup,
Cécilia. J'espère revenir bientôt à Paris.
Voilà.
Ça sera avec grand plaisir. Nous te recevrons avec grand plaisir.
Très bien.
À très bientôt.
Merci, je vous embrasse.
Nous aussi.
Merci.
Au revoir, Cécilia.
Au revoir.
Alors ce livre, on en parle un petit peu avec vous, qui est sorti en 2009.
Oui.
Et qui comporte 303 pages. Alors avec quelques photos. Alors je suis surprise un petit peu par la façon dont c'est présenté. Ce sont des petits paragraphes.
Voilà, en fait, c'est un journal. En fait, c'est vraiment le journal de sa vie. Victoria Camille tenait journal depuis toujours et il est arrivé un moment où elle le disait elle-même, elle s'est mise à vouloir mettre bout à bout ce qu'elle avait noté au cours de toute sa vie. Et donc, ça apparaît comme des petits événements du jour, en fait. Donc, ça commence par sa vie personnelle, sa naissance et sa vie d'abord en Turquie, donc de famille judéo-espagnole, grande famille, très riche, parlant 4 ou 5 langues, faisant ses études en Autriche. En fait, ces grandes familles des Balkans de la fin du 19e siècle. Et venant à Paris, et puis les années 20, la déroute, la crise, l'énorme crise. Et donc, cette famille est restée à Paris. Et donc, elle a fait ses études de pianiste et elle était promise à une grande carrière. Et alors, elle est tombée tout à fait par hasard sur la première œuvre écrite de Joaquín Rodrigo, qui est le prélude au coq matinal, hein, Preludio al canto al gallo mañanero. Et elle est tombée amoureuse de l'œuvre avant de tomber amoureuse du compositeur, en fait. Et il se trouvait que ce Joaquín Rodrigo était non-voyant, en fait. Il avait eu la diphtérie, je crois, à l'âge de 3 ans. Et il a perdu la vue petit à petit. En fait, il ne voyait pratiquement plus. Et donc a commencé cette idylle, le romance de cette vie, d'abord avec d'énormes difficultés. Enfin, je ne vais pas tout raconter parce qu'il y a des choses qu'on aime à découvrir à la lecture. Donc d'énormes difficultés au début, des choses absolument incroyables. Donc Victoria Camille, qui était juive, elle se dit fin 38, début 39, tiens, si on allait en Allemagne pour essayer de voir si ça va mieux pour les artistes là-bas. Enfin, des choses qu'on n'arrive pas à comprendre maintenant. Et puis le retour en Espagne, parce que ici les choses se gâtaient, donc fin 39, alors que la guerre civile était finie en Espagne, mais eux étaient ici en France pendant ce temps-là. Et puis un second départ en Espagne, et puis le début, et puis ce concerto d'Aranjuez qui est pour lui...
Il l'avait ramené dans ses valises
de Paris. Oui, il avait ramené pas grand-chose dans la valise, le concerto d'Aranjuez, qui a eu le succès qu'on lui connaît. Et puis toute une vie extrêmement riche de compositions, de recherches, de cours, de voyages, elle a fait partie des premières personnes qui ont fait partie de l'UNICEF. Elle a été une des cofondatrices, comme lui a été le cofondateur de la ONCE en Espagne, qui est la plus grande loterie pour les non-voyants, en fait. Enfin, plein de créations, plein d'actions, plein de choses extrêmement originales dans tous les domaines.
Il y a même un endroit, il avait pris à l'hôtel au Mexique, ça avait pris feu.
Ah oui, oui, oui.
Ils étaient en pyjama tous les deux dans l'air.
Ils ont failli mourir dans un incendie de grand hôtel.
Il aurait arrivé de tout.
C'est absolument une vie qui est extrêmement intéressante de tous les instants, mais effectivement, c'est par petits, comme raconté au jour le jour, quoi, finalement, par petits paragraphes.
Ça, oui, puisque le format est surprenant, et effectivement, si c'est un journal, ça s'explique facilement.
C'est le journal d'une vie, quoi, en fait.
Peu de photos, finalement.
Peu de photos, oui. Je pense que, enfin, dans la version espagnole, il y en a peu aussi, donc on a repris à peu près le même format de photos, quelques jalons, donc, de portraits et de... C'est plutôt le texte, c'est plutôt ce qu'on y raconte, quoi, en fait. Et chacun se forge son idée du périple de ces deux personnes qui sont absolument extraordinaires, quoi.
Mais alors, finalement, ils sont revenus en Espagne à partir de quelle époque ?
Alors, ils sont en 39.
Donc, en fait, 39, quand tout le monde s'en va d'Espagne, eux rentrent en Espagne.
Voilà, eux étaient en France.
Finalement, ils jouent.
Alors, eux sont passés.
Ils jouent à contre-courant sans arrêt.
Tout à fait. En fait, ils sont rentrés en Espagne parce qu'un commissaire français a dit à Joaquín Rodrigo : emmenez votre femme en Espagne. Parce que ce n'était pas le moment de rester ici, les choses allaient se gâter vraiment. Donc, ils sont arrivés là-bas. Les débuts ont été extrêmement difficiles. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est en dehors du temps et en dehors des politiques, parce qu'en fait, on lui reprochait d'avoir eu du succès au temps de Franco. Mais il a eu du succès avant, pendant et après Franco. En fait, je veux dire, c'est quelque chose qui est une dimension totalement différente que de ces problèmes de politique, en fait. Il n'était pas plus le musicien de Franco qu'il n'avait été le musicien d'Hitler en Allemagne, qu'il n'ait été le musicien du roi d'Espagne, quoiqu'il l'ait fait marquis il y a quelques années, donc marquis des jardins d'Aranjuez, justement. Quand, à la façon des Anglais qui deviennent lords, lui, il est devenu marquis. Donc Cecilia Rodrigo est marquise.
Ah, parce que ça se passe de génération en génération, oui. Alors qu'en Angleterre, ça se passe quand on devient lord. Voilà. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas transmissible.
Ouais. C'est ça.
Voilà. Ah oui, d'accord. Là, mais maintenant, c'est Cecilia qui est marquise.
Oui.
Moi, je ne serai jamais marquise. Enfin, c'est à tous les musiciens, et même les autres, moi, je les recommande vraiment vivement de lire ce livre. Parce que ça donne du moral. Il faut du moral dans ce métier.
C'est d'artiste. Vraiment une fresque de tout le XXe siècle, en fait. Ouais. On y voit là tout ce qui a compté, marqué du point de vue musical en Europe. Et qui est écrit là. Ce sont des gens qui les ont côtoyés, qui les ont fréquentés.
Oui, tous les plus grands chefs de l'époque, ils ont été dans les plus grands théâtres, enfin les plus grandes productions.
Et les plus grands sont venus chez eux.
Et c'est incroyable James Galway.
Tout ce
qu'il a écrit. Hein. C'est une œuvre enfin, gigantesque. Hein. De toute façon, bon,
il est mort presque centenaire.
Il est
donc,
mort à 99 ans. Hein.
Il a couvert absolument tout le
siècle. Il a couvert le siècle.
Le siècle.
1901-1999, il a couvert tout le siècle.
Je pense qu'il a arrêté d'écrire vers les 85 ans, je crois, quelque chose comme ça.
Comme très peu de grands compositeurs, lui, il jouait toutes ses œuvres partout dans le monde. C'est-à-dire tout ce qu'il écrivait, et comme Laurent Garzou a dit, que sa musique est difficile. Elle est très agréable à écouter, mais elle est très difficile à jouer. Subitement, c'est on dirait une petite chanson, et puis après, il y a un os technique fabuleux. Et puis quand on en sort bien, ça met un peu plus de piment. Et lui, il jouait toutes ses musiques, hein, et dans des tempi pas de pépère. C'est-à-dire qu'il assurait vraiment, c'était comme Liszt ou Chopin, ils écrivaient, mais ils savaient jouer. Il avait partout ça. Ça, c'est assez rare, hein, encore.
Surtout pour un envoyant, en plus. Il fait partie de ces personnes comme Ray Charles ou Stevie Wonder, qui sont des véritables génies, qui ont tout mis au service de la musique, je pense. Hein. Leur vie est vouée à la musique. Ce sont des gens qui nous touchent beaucoup.
Alors, Victoria Cabi, elle le dit souvent dans le livre, c'est elle qui traduisait tout. Et souvent, il ne passait même pas en braille parce qu'elle était tellement aussi bonne pianiste que lui. Lui jouait, alors elle faisait comme des dictées musicales. Et de temps en temps, je suppose qu'elle allait de temps en temps faire la cuisine ou elle allait se pomponner. Mais donc, lui, il écrivait seulement en braille. C'est-à-dire, la machine en braille était exposée partout. Oui. La fondation Victoria Cabi et Joaquín Rodrigo fait le tour du monde pour exprimer et puis faire connaître mieux leurs œuvres. Et il y a cette fameuse machine qui était là. Et nous, on a vu les plaques dans le musée à Madrid, la plaque originale en braille du concerto de Aranjuez. Quand même une belle relique.
Parce qu'en fait, l'appartement de Joaquín Rodrigo est transformé en fondation maintenant. Donc, on peut visiter et voir.
C'est de piano, enfin, toutes ses œuvres, les peintures qui ont été faites pour lui.
La malle dans laquelle il a transporté le concerto de Aranjuez pour arriver dans
Madrid. Et puis le pyjama, parce qu'il n'y avait pas que la malle. Alors, c'est vraiment un beau livre. Je recommande à tous les musiciens et autres.
La fondation se voue à quoi, en fait
À divulguer l'œuvre. Ils organisent des
beaucoup
concours.
De concerts et des grands concours internationaux.
Oui.
De guitare, de piano, de violon, de chant. Oui, même j'ai eu l'honneur d'être il y a 3 ans vice-président du concours national violon et piano à Madrid. Et c'est des niveaux où les artistes viennent. Bon, ils sont sélectionnés déjà. Alors ça dure 15 jours à peu près, 8. Hein. Ils jouent toutes les œuvres de Rodrigo, tout un panel d'œuvres qu'on découvre à chaque fois. Parce que je le disais tout à l'heure à Cecilia, je ne connais que le dixième de ce qu'il a écrit. Et il n'y a rien acheté, comme dirait Laurent. Tout est terrible, c'est terrible. C'est une musique fabuleuse. Alors je dis, bon ça, je vais prendre des idées, mais je ne peux plus, il me faudrait plus qu'une malle pour prendre toutes ces musiques. Donc la fondation sert à ça aussi, et organiser puis perpétuer l'œuvre d'un grand maître.
Sa fille est musicienne, elle le joue quel instrument?
Elle est danseuse.
Elle est danseuse classique, elle a fait carrière. Oui, oui.
Bon, elle a fait ses études de piano, bien sûr, mais elle a fait une carrière de danseuse, de danse classique, et ensuite elle a eu une école de danse à Bruxelles, puisqu'elle a vécu longtemps à Bruxelles avec son mari, qui est le grand violoniste Agustín Leonara, qui avait donc eu le prix Reine-Elisabeth et qui s'était...
professeur au Théâtre Royal de Bruxelles.
Qui était resté à Bruxelles pour mener carrière. Et donc, ils sont restés une bonne vingtaine d'années.
22 ans là-bas.
Et elle avait donc une école de danse.
Classique.
Voilà.
Qu'elle a repris d'ailleurs en arrivant à Madrid. Maintenant, je pense qu'elle a plus le temps parce qu'elle voyage tellement pour la Fondation.
Et puis bon, donc, le temps...
Oui, le temps, à un moment donné, chorégraphie, il faut quand même tenir la forme. Hein. Moi, il y a longtemps, j'ai raté la danse. Hein.
Et Cunningham qui a dansé pendant très très longtemps.
Oui.
Est-ce que ce lieu s'est servi des musiques de son père pour danser dessus?
Certainement, hein,
je pense. On a fait appel à elle, oui. C'est plutôt son père qui a fait appel à elle pour danser sur des musiques à lui. C'est ce qui est dit dans le livre, en fait.
Ah oui?
Oui. Notamment pour des créations à Sagunto, là où il est né. Il est né à Sagunto, sur la côte méditerranéenne, près de Valence. Et ils ont notamment fait une grande création d'une de ses œuvres dont je n'ai plus le titre là en mémoire. Mais effectivement, elle a été réquisitionnée pour faire la création. Et Agustín, donc, qui est son mari, a enregistré toutes les œuvres pour violon et est spécialiste donc, de la musique de Joaquín Rodrigo aussi. Il y a matière à faire travailler toute une famille.
Très bien. D'autres questions? D'autres?
Non, simplement, je vais m'empresser d'écrire ce livre parce que, d'abord, j'ai beaucoup aimé cet artiste et je me rends compte qu'effectivement, c'est un peu comme la partie visible de l'iceberg. Je n'en connais que cette partie visible. Je vais essayer de découvrir le reste maintenant.
Très bien. Donc, je vous recommande le livre. Je répète le titre, Main dans la main avec Joaquín Rodrigo, l'histoire de notre vie, de Victoria Camille, K-A-M-H-I, et qui est traduit l'espagnol par Christina Delume. Oui. Aux éditions L'Harmattan. Alors ça coûte 29 euros. Voilà, donc vous pouvez le commander, vous pouvez le trouver dans toutes les librairies.
Oui,
absolument. Il n'y a aucun problème, aucun souci à ce niveau-là. Je vous remercie tous.
Merci.
Longue vie aux livres. En général, ils ont une plus longue vie que nos pauvres albums.
Merci Marion.
Merci.
Bien, merci beaucoup, merci Laurent, merci Bernard, merci Christina,
merci
Richard. À très bientôt.
Oui,
à bientôt.
Autre radio, autre culture. Bonsoir. Autre radio, autre culture.